grande matinale avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
Le plus de la grande matinale, deuxième rendez-vous de la semaine. On va parler, on va s'entretenir avec le coach D. Le coach D, comme tous les mardis, vous avez donc rendez-vous du droit, du rendez-vous avec notre entrepreneur spécial. On parle bien sûr de business plan aujourd'hui, partie économique et financière. Voilà, tout est rentré dans l'ordre techniquement. Bonjour coach et bienvenue.
Bonjour Phil.
Le temps de mettre son casque, hein. Donc voilà, vous avez vu que j'ai balbutié un tout petit peu. Alors, le business plan, partie économique et financière, c'est donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Coach, oui. Vous aurez aussi la possibilité, auditeur d'Africa Radio, de nous appeler en direct pour poser toutes les questions à notre coach, comme tous les mardis. Et nous aurons également un entrepreneur hein, avec nous sur le plateau. Elle s'appelle Hervia Manga. Elle a donc une entreprise qui s'appelle HM by Hervia Shop Luxury. On parlera donc de cosmétiques et de luxe tout à l'heure. Mais d'abord, coach, de quoi est composé un business plan ?
En fait, le business plan est un dossier qui permet de construire, de structurer, de valider un projet de création ou de reprise d'entreprise. Sa réalisation constitue une étape essentielle pour tout entrepreneur. Concernant la composition de ce business plan, pour ma part, il y a trois parties. Il y a une première partie où c'est une synthèse que vous faites de votre business plan. La deuxième partie, c'est l'étude économique. Mmh. Et la troisième partie, c'est l'étude financière. Voilà, je rentrerai un peu plus dans les détails sur chaque partie que je viens de vous citer.
Alors, quelle est l'utilité, justement, d'un business plan ?
Ben, il faut savoir qu'un business plan en dehors...
Je pose la question un peu profane hein, pour la compréhension de tout le monde, parce que certains se lancent en entreprise sans business plan, sans regarder tous ces contours.
Tout à fait. Vous savez, souvent les gens imaginent que le business plan est réalisé en premier lieu pour le financement ou pour les banques. Mmh. Or, pour ma part, un business plan, ça permet déjà à soi-même de mettre son projet, le coucher sur une feuille, sur des papiers, sur des documents, vérifier la faisabilité du projet, mmh. à la fois sur la présentation économique du projet et surtout déterminer clairement, est-ce que ce projet-là est rentable ou non. Donc à partir de là, vous êtes obligé d'établir ce document-là déjà pour soi-même, parce qu'on peut être dans l'imaginaire, mais le fait de réaliser le business plan, ça vous rapproche un peu plus de la réalité. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que c'est primordial lorsqu'on se lance, il faut absolument un business plan ?
Pour ma part, oui, parce que le business plan rassemble à la fois le projet écrit et le projet chiffré. À l'intérieur, on retrouve tout ce qu'on avait dit la semaine dernière, l'étude de marché, on vérifie les coûts auprès des fournisseurs, on a fait l'étude sur les potentiels clients. Donc j'estime que c'est un document nécessaire déjà pour soi, à savoir est-ce que je me lance ou non dans cette aventure-là. Deuxième étape, c'est ben, ce même document-là, parce que vous avez besoin de financement en général, ouais. ben, vous allez le soumettre au banquier et ça va être un élément de base d'analyse de votre projet. Vous pouvez venir parler verbalement, soutenir votre projet. Le banquier vous demandera toujours un écrit et des chiffres. Et le business plan, ben, c'est un élément essentiel parce que ça permet d'aller sur à peu près 3 ans de prévision. En général, c'est ce qui est demandé par les banquiers et voir si le projet est viable ou non.
Justement, en parlant des banquiers, la banque finance-t-elle la TVA ?
En fait, au niveau de la TVA, il faut savoir que quand vous allez voir un banquier, quand vous avez besoin d'acheter du matériel, le banquier finance toujours le montant hors taxe. Mmh. Mais vous avez la possibilité, parce que souvent les créateurs, les futurs créateurs ne maîtrisent pas cette information-là.
Exact.
Vous pouvez demander au banquier de financer par le biais d'un crédit relais le montant de la TVA. C'est quoi un crédit relais ? C'est-à-dire qu'au moment où vous allez créer votre société, une fois qu'elle est créée, je vous conseille bien sûr de voir avec votre expert comptable de mettre la TVA mensuellement. Mmh. Une fois que vous aurez fait vos acquisitions, vous faire une demande de remboursement de TVA auprès des impôts. C'est à ce moment-là que vous allez rembourser le montant de la TVA sur crédit relais. Je donne un exemple.
Ça reste très technique, hein, coach. Est-ce que dans un langage un peu plus simple pour permettre...
Un peu plus simple. Je vais vous donner un exemple concret. Ouais. Vous avez besoin de financer un camion qui coûte 100 000 euros hors taxe. Il y a 20 000 euros de TVA. Le banquier finance en général que les 100 000 euros. Il vous demande à vous de trouver les 20 000 euros de TVA parce que c'est l'argent qui revient à l'État. Mmh. D'accord ? Mais vous pouvez négocier avec votre banquier qui vous finance un crédit qui est à part sur 10 ans, les 100 000 euros, et un crédit à moins d'un an pour les 20 000 euros. Ce crédit-là, vous le remboursez au moment où vous faites votre demande de remboursement auprès de l'État. Mmh. Une fois que vous recevez cet argent-là, vous remboursez la banque, le crédit est clos. Mmh. Par contre, les 100 000, c'est à longue durée sur 10 ans avec des faibles mensualités. Voilà. Vous voyez un peu l'astuce, au fait.
Voilà. Alors, sur quel élément le chiffrage du business plan se base-t-il ?
Il faut savoir que quand on établit un business plan, l'objectif, c'est toujours à la fin, aller regarder est-ce que le projet est rentable ou pas. Ouais. C'est pas se dire, bah, tiens, je peux faire 1 million de chiffre d'affaires, 2 millions de chiffre d'affaires, et à la fin, le résultat net, on arrive, on est à moins 50 000, moins 100 000. Ouais. Donc ça, c'est problématique. Donc l'objectif, quand vous arrivez à la fin, bah, se dire, bah, après avoir payé toutes mes dépenses, à savoir mes charges fixes, mes charges variables, j'arrive à la fin, j'ai un résultat positif. Il faut savoir que le banquier va regarder votre résultat, il va s'appuyer sur votre capacité d'autofinancement. Cette capacité d'autofinancement permet de voir la richesse créée par l'entreprise. Et si vous dégagez une richesse assez importante qui vous permettra de couvrir les mensualités de votre emprunt. Je donne un exemple simple, encore cette histoire de 100 000 euros. Les mensualités, c'est 2 000 euros tous les mois. Mmh. On arrive en fin d'année, ça couvre à peu près 24 000 euros. Or, vous, votre capacité d'autofinancement, vous êtes que à 12 000 euros. Le banquier va vous dire, bah, écoutez, madame, monsieur, votre projet ne peut pas faire face à l'argent, les 100 000 que vous souhaitez que moi je vous prête. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est que le résultat que vous dégagez, la capacité que vous dégagez, vous devez être capable de rembourser l'emprunt mensuellement. Mmh. Donc ce qui veut dire que le banquier peut vous prêter que si votre résultat est en accord avec les remboursements souhaités. Voilà.
Alors, je vous invite également à nous appeler au 0155 07 58 00 si vous avez des questions à poser à Coach D. Et si vous êtes à Abidjan, vous nous écoutez sur 91.1, précédé du 33, bien évidemment. Alors, Coach D, quels sont les points essentiels sur lesquels le banquier s'appuie pour valider ou non un crédit ? Parce qu'on a le sentiment parfois que... ce sont les grands méchants, ces banquiers qui, ma foi, sont parfois très réfractaires. Rares sont les projets qui aboutissent.
Vous savez, le banquier se base sur plusieurs éléments. Un banquier, c'est aussi... c'est du business. Ouais. Il est là pour gagner de l'argent. Je pense que même si vous étiez à la place de ce banquier-là, prêter de l'argent à une société où vous savez que c'est voué à l'échec, vous ne prendrez pas ce risque-là. Uh-huh. Le banquier va déjà analyser le porteur du projet. Uh-huh. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi me donne envie de lui faire confiance en dehors des chiffres ? Parce qu'il faut, comme on avait dit il y a 2 semaines.
Il faut d'abord installer la confiance.
Il faut installer la confiance. Et cette confiance-là, c'est quoi ?
C'est quoi ? C'est apporter des chocolats ?
Non, du tout. Chocolat, champagne, ça ne passe pas. C'est d'abord vos compétences.
D'accord.
Si vous êtes compétent dans le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer, le banquier serait déjà attrait à vous suivre dans votre projet. Deuxièmement, n'oubliez pas, le banquier, à la base, c'est aussi un financier. Uh-huh. De l'autre côté, il connaît ce qui se passe un peu sur le marché. Si vous lui apportez le projet, comme on a dit la semaine dernière, des taxiphones, il va vous dire, monsieur, madame, désolé, même si votre business plan semble très bien monté, très clair, c'est une activité en déclin.
Ouais.
Donc, je ne pourrai pas vous suivre dans ce projet-là. Deuxièmement, vous arrivez, vous souhaitez emprunter 50 000, 100 000, 200 000 et vous mettez un capital de 100 euros.
Ouais.
Le banquier vous dit, écoutez, madame, monsieur, vous ne prenez pas énormément de risques dans votre activité. Vous souhaitez que moi, j'arrive, je vous mette sur la table 100 ou 200 000 euros. Ouais. Donc, ça aussi, ça fait partie au fait des éléments qui font que quand on veut emprunter 1 million, ben, il faut ramener 100,
un apport
100, 150 000 euros pour rassurer le banquier que vous êtes en capacité à la fois d'apporter de l'argent et d'en créer derrière. Après, il va regarder le chiffrage, voir un peu ce qui se passe dans votre secteur d'activité. Parce que vous pouvez arriver, mais écoutez, moi, j'estime que je vais faire 50 000 euros de résultats tous les mois. En fin d'année, je ferai 600 000 euros. Le banquier va regarder un peu dans le secteur d'activité dans lequel vous souhaitez vous lancer, va vérifier est-ce que c'est faisable ou non, les chiffres que vous lui soumettez. Parce que, effectivement, on parle de prévisionnel. On n'est pas sûr réellement, on n'a pas de garantie que le chiffre d'affaires qu'on a pu apposer sur les différents documents, c'est ce qu'on va réaliser. Mais il faut rester dans une certaine logique de présentation tout en faisant attention à ce qui se passe un peu dans le secteur d'activité. Donc le banquier regarde vraiment tous ces éléments-là.
Alors avant de se retourner vers notre invité sur le plateau, Hervia Manga, quels sont à peu près, on va dire, les secteurs d'activité qui sont plus ou moins appréciés, qui ont plus de chances d'être financés par les banques.
Les secteurs d'activité, même aujourd'hui...
Avec un véritable business plan, je veux dire.
Déjà, même avant de parler financement, il faut déjà avoir la chance d'ouvrir un compte bancaire. Aujourd'hui, les banquiers choisissent même quand vous leur demandez rien, quand vous vous présentez à eux, il y a des secteurs d'activité, ils ne sont pas très motivés à ouvrir même un compte bancaire pour offrir un carnet de chèques. Voilà. Les secteurs d'activité qui sont mis un peu de côté, c'est tout ce qui est sécurité. Les boîtes de sécurité sont moyennement appréciées. Certains
Sécurité,
bâtiment, certaines boîtes de nettoyage, les banquiers ne sont pas très motivés à vous financer. Donc c'est vraiment vous, l'homme ou la femme qui portez ce projet-là, qui va susciter cette confiance-là pour que le banquier puisse vous octroyer à la fois le compte ou les crédits. Donc c'est pour ça que je demande notamment aux créateurs d'entreprises d'être vraiment bien préparés par rapport à leur compte personnel pour pouvoir installer une relation de confiance avec votre banquier. Sans cette relation-là de confiance, malheureusement, il ne serait pas possible d'avoir des ouvertures de compte. Mais après, je tiens aussi à vous donner l'information. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'ouvrir des comptes en ligne. Voilà, par exemple, souvent...
On parle de la France.
De la France, ouais. Je parle ici en France, vous avez ouvert des comptes en ligne. Et c'est une bonne chose parce que ça permet de quand même réaliser son projet, même si certains banquiers sont réfractaires.
Voilà, toutes vos questions en direct au 0155 07 58 00. Parlons entreprise, c'est tous les mardis entre 9h et 10h sur Africa Radio. À présent, on va s'intéresser à Hervia Manga qui est avec nous. Bonjour et bienvenue, madame. Hervia Manga.
Bonjour Philippe Pabou.
Bonjour.
Coach.
Alors justement, dites-nous, vous êtes lancé dans quel secteur d'activité exactement ?
Je me présente Hervia Manga.
Oui.
Afro-parisienne. Je suis infirmière de formation et je suis passionnée par la mode.
Ouais. Infirmière de formation qui est passionnée par la mode. Vous êtes lancée dans ce qu'on appelle dans le luxe, dans des produits de luxe que vous proposez à travers votre site internet HM by Hervia Shop Luxury. Pourquoi justement et comment, quel est votre parcours justement avant de vous lancer en entreprise tout en étant infirmière de formation?
Mon parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis infirmière. La mode, c'est quelque chose que j'aime bien depuis toute petite.
Oui.
Et j'ai décidé d'ouvrir ma société de vêtements en ligne pour vendre des chaussures, des accessoires, des diverses choses, des vêtements qui sont inspirés des grandes marques.
D'accord.
Je répète bien, inspirés par la copie.
D'accord.
Inspiré des grandes marques à bas prix, on va dire bon prix.
D'accord, bon prix. En fait, c'est des produits de luxe inspirés de grandes marques, mais à un prix défiant toute concurrence. Alors, vous êtes lancé comment ? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, moi, je voudrais faire un peu comme tout le monde, ou vous avez pris des conseils d'un spécialiste pour monter cette entreprise ? Comment vous avez fait ? Vous êtes lancé directement comme ça sans...
Non, j'ai fait la connaissance d'un ami il y a quelques mois qui m'a parlé un peu de l'entrepreneuriat.
Oui.
Africain.
Oui.
Et puis international. Et on a fait une étude du marché. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de vêtements asiatiques qui sont vendus en Afrique. Et moi, par exemple, je compte ramener le marché européen, à savoir des vêtements fabriqués en France de qualité, mais à bon prix.
Alors,
qui
si
sont
je comprends bien.
Des grandes marques. Des grandes marques et des créateurs qui émergent dans la mode, quoi.
Alors, votre champ d'action, c'est l'Afrique, c'est-à-dire que
c'est l'Afrique
à travers le marché asiatique et le marché européen, notamment la France, vous voulez déporter tout cela sur le continent. Quel est le cheminement, justement ?
Alors, pour l'instant, j'ai ouvert une boutique à Abidjan. À Makori, près du marché.
Ah, ils nous écoutent à Abidjan. On les salue du côté de Makori.
Et je compte m'étendre dans toute l'Afrique, à savoir au Gabon, au Cameroun, qui est mon pays. Pourquoi pas au Congo.
Alors, ça s'appelle HM by Hervia Shop Luxury. Oui. HM pour Hervia Manga. Luxury, parce que vous faites des produits de luxe inspirés des vêtements de luxe défiant toute concurrence. J'aimerais avoir le point de vue de Coach D par rapport à ces quelques explications.
Mais sur ce que j'ai pu entendre, il y a déjà une précision qui est importante. Donc, madame a bien précisé que les vêtements seront fabriqués en France. Et pour moi, ça, c'est déjà un bon élément. Elle veut se différencier de tout ce qui est vendu dans nos pays africains qui proviennent essentiellement de l'Asie. Maintenant, en faisant ce choix-là, on se dit que normalement, fabriquer en France coûte cher. Comment fait-elle pour arriver à rester dans un prix raisonnable tout en proposant de la qualité made in France ? Comment vous faites cela ?
Éventuellement, avec mes fournisseurs, je les ai parlé de mon projet. Et comme, par hasard, ils veulent bien s'investir en Afrique, donc on a trouvé un moyen de pouvoir faire ce
deal-là avec les fournisseurs. Donc, on a vraiment la garantie que les vêtements que vous allez vendre en Afrique vont réellement être fabriqués ici en France. Ça, il faut vraiment se l'assurer parce que si vous dites ça, normalement, vous manquerez pas d'avoir de la clientèle, mais il faut absolument que ça soit vrai et vérifiable dans la durée. C'est important.
Oui, je peux vous garantir. J'habite en France, je réside en France, donc je prends tout mon temps pendant mes journées de repos, je me déplace vers mes fournisseurs pour contrôler
leur marchandise. Donc vous avez cette chance-là, le fait que les fournisseurs soient sur place, vous avez plus la facilité à aller les contrôler et suivre vos commandes en fait.
Exactement.
D'accord.
Alors, on peut bien comprendre que c'est un projet qui est naissant, d'ailleurs, qui va certainement grandir. J'aimerais qu'on revienne sur notre sujet et vous parler de business plan. Comment il se construit, techniquement, coach ? Justement, parce qu'on parle de bilan prévisionnel, de savoir dans quelle direction on va partir concernant notre entreprise avant de prendre les auditeurs au 0155 07 58 00. Parlez-nous de bilan prévisionnel. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Le bilan prévisionnel, c'est simple. À un moment donné, ça se divise un peu en deux parties. Première partie, on va relater tout ce qui concerne le chiffre d'affaires.
Ouais.
De quoi est composé votre chiffre d'affaires ? Pour une personne comme madame qui est à mes côtés, elle vend des accessoires et des vêtements. On peut subdiviser en 2, 3, 4 lignes en disant la première ligne, c'est tout ce qui est vente de vêtements, à savoir tous les mois, combien elle compte vendre en quantité et les prix unitaires, ça nous détermine le total pour la ligne vêtements. Deuxième ligne, on parle, elle vend des chaussures. Si on veut suivre la quantité des chaussures que madame estime vendre dans les mois à venir, on crée un peu ce tableau-là qui va relater tout le chiffrage selon selon les produits proposés. Mmh. On arrive à un total mensuel, par rapport à chaque activité. Ouais. Et ensuite, de là, on va prendre en compte les charges. Quelles sont les charges ? On va parler pour madame qui est là. Elle a un local. Il y a le loyer. Mmh. On va dire que le loyer, c'est 1500 euros tous les mois. On va prendre l'électricité, les frais de l'expert comptable, s'il y a un avocat. Il y a quoi d'autres frais ? S'il y a le téléphone, ouais, les frais de téléphone et Internet. Donc, on va additionner les charges récurrentes qui reviennent. Et puis, la charge variable pour madame, il y a les achats de chaussures, ouais, et les achats de vêtements. Mmh. On tient compte de cela. Une fois qu'on a notre compartiment chiffre d'affaires, compartiment charge, on fait la différence entre les deux parties. À la fin, ça s'appelle un résultat. Le résultat, c'est un résultat avant impôt, parce qu'il faut savoir qu'on paye des impôts, que ce soit en France et dans certains pays en Afrique. Mmh. Les taux diffèrent. En France, ça peut commencer à 15%, le taux, jusqu'à 25% ou 28%. OK ? Une fois qu'on a calculé l'impôt, on a notre résultat net. C'est sur ce résultat net-là qu'on a toute la réflexion derrière, à savoir est-ce que j'ai réalisé un résultat
positif
ou un résultat négatif. J'attire aussi l'attention que vous pouvez avoir les 2-3 premiers mois un résultat négatif. L'objectif, c'est regarder dans la durée. Mmh. C'est-à-dire que les 3-4 premiers mois, c'est des 5-6 premiers mois, c'est des mois d'investissement. Éventuellement, on dépense énormément. Mmh. Donc au niveau résultat, on peut être en déficit. Par la suite, on peut basculer en positif. L'objectif, c'est regarder le résultat final. Il faut savoir que les grosses entreprises, dans les premières années, elles sont en général en perte. Pourquoi ? Il y a de l'investissement sur la recherche et le développement qui coûte énormément cher pour mettre en place les nouveaux produits. Voilà, donc ça engendre au fait des déficits pendant les premiers mois, voire les premières années. Il ne faut pas s'inquiéter quand vous avez 3-4 mois difficiles. C'est prévisible parce que vous êtes en phase d'investissement. Mais l'objectif, c'est qu'en fin d'année, on puisse avoir un résultat positif. Voilà.
Alors, je vous ai bien suivi, coach. Si on comprend bien, toujours pour rester dans le plan de financement, alors il y a le plan de financement prévisionnel qu'il faut absolument avoir et surtout l'apport. Lorsqu'on va voir un banquier pour pouvoir obtenir un crédit, il faut ces deux éléments.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous allez voir un banquier, il faut lui montrer déjà votre capacité à épargner. C'est le point qu'on développera dans notre prochaine émission. Ça va être la semaine prochaine. C'est un point qui est aussi essentiel. Pour pouvoir convaincre un banquier, vous devez déjà lui montrer que vous êtes capable de... Votre apport, c'est ça qui va signifier que, cette personne-là, en dehors de son activité...
Pas la peine d'apporter des chocolats ou du champagne. Hein.
Non, ça, c'est au moment où il vous octroie le crédit, vous lui dites, monsieur le banquier, merci, tenez votre boîte de chocolat. C'est ouais, plutôt à la fin qu'au début, au fait.
Alors, ouais, le budget de trésorerie.
Oui.
Toujours pour rester dans notre thématique, qu'est-ce que c'est ?
Le budget de trésorerie, c'est un tableau qui vous permet de suivre en temps réel votre... trésorerie. C'est quoi trésorerie ? C'est l'argent disponible au sein de votre activité. C'est-à-dire que quand vous commencez l'activité, souvent je le dis clairement, vous ne pouvez pas démarrer, même si c'est autorisé par exemple ici en France de créer une société avec 1 euro de capital. Vous le savez très bien que pour démarrer une activité, il faut de l'argent. Et cet argent-là, c'est les premières personnes qui vont les mettre, ce sont les créateurs, ce sont les associés. Donc, c'est ça qui rentre au début au niveau des encaissements. C'est l'apport effectué par le biais du capital ou de l'apport en compte courant. Donc, cet argent-là qui est mis à disposition de la société, vous devez le suivre jour par jour, savoir les dépenses que vous faites pour ne pas être surpris à un moment donné de se dire « Tiens, je me retrouve à découvert » et souvent les découverts sont non autorisés par les banquiers pour les sociétés nouvellement créées. Donc, il est important d'établir un peu ce budget de trésorerie, cette présentation-là. Ça vous permet de se dire à un an, je sais à peu près combien j'aurai besoin en cash pour pouvoir faire en sorte que mon activité soit assurée. Il est important parce que quand vous êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas vivre au jour le jour. Ouais. Il faut prévoir. Donc on prévoit à la fois le résultat, mais on prévoit aussi ce suivi de trésorerie qui est nécessaire pour éviter des surprises. Vous voyez ? On démarre l'activité pour souvent les transporteurs qui nous appellent. Mmh. Je leur dis, faites attention. Les deux premiers mois, vous n'allez pas avoir des encaissements. Mmh. Donc, il est logique de prévoir que il faut que je m'assure 2 mois à la fois de location du camion, 2 mois de salaire de mes chauffeurs, 2 mois de tout ce qui est gasoil pour pouvoir réaliser mon activité. Donc, grâce à ce budget de trésorerie, on peut facilement suivre ça, savoir que à cette date-là, je vais avoir l'encaissement de mon client M+2 ou M+3. Mais en M0, je suis obligé, moi, d'apporter 30 000 ou 40 000 pour assurer mon activité. Et ce tableur-là vous explique facilement et c'est un document qui vous permet de piloter votre activité.
Alors, ces budgets de trésorerie me font penser un peu de façon artisanale en Afrique. Je vais me retourner du côté d'Hervia. On voit bien qu'en Afrique, notamment au Cameroun, ces grandes commerçantes, ma foi, parfois ne s'appuient pas sur ces tableaux coach day, parce qu'on voit des grandes commerçantes qui sont au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un tableau prévisionnel de trésorerie pour pouvoir s'organiser. Je me suis souvent posé la question, comment elles font? Et elles sont pérennes depuis des années.
Oui, c'est madame qui répond, je prends la parole.
Tous les deux.
Oui, qu'est-ce que vous en pensez?
Tout dépend de tout un chacun, de ce qu'il a épargné à l'avance, de ses fonds. Voilà. Comme je vous ai dit, je suis infirmière, donc vous savez très bien combien les infirmières gagnent.
D'accord.
Et de part des vacations en plus. Donc je pense qu'on a vraiment du temps pour mettre quelque chose
de côté.
Sur le côté.
Vous savez, moi je vais répondre clairement à votre question sur ce point-là. Vous savez, la même règle qui s'applique ici en France s'applique partout en Afrique, en Chine et partout dans le monde. Il n'y a pas de surprise au fait. C'est-à-dire que ces grandes dames-là, elles appliquent cela sans même savoir qu'elles l'appliquent. Voilà, ces tableaux-là que nous, on établit, elles le font mentalement. Elles savent très bien qu'aujourd'hui, quand je vends pour 900 euros, elles vont mettre un tiers de côté pour se dire que demain, je vais peut-être en avoir besoin. Elles vont mettre encore une autre partie pour renouveler leur stock. Voilà, donc ce sont des dames qui appliquent ces principes-là en toute connaissance de cause, mais là, simplement, nous, il fallait quand même qu'il y ait des financiers, des comptables, pour matérialiser ce qui est fait naturellement par ces grandes dames-là. Donc, automatiquement, tout ce qui est business plan, elles l'ont déjà. Quand une dame commence son activité, elle se dit, moi, je suis vendeur de beignets. Nous, qui étions petits, on aimait les beignets. La dame, elle savait très bien que quand elle vendait ses beignets, il y avait un petit pourcentage qui servait pour pouvoir payer l'école des enfants. Ouais. Il y avait une partie qui servait pour manger au quotidien, mais elle n'utilisait pas tout. Voilà, donc c'est pour ça que souvent en Afrique, ce sont nos mamans qui tiennent le commerce, qui tiennent le business, parce qu'elles savent épargner. Nous, les hommes, malheureusement, le plus souvent, on aime dépenser, on est présent, on aime gâter. Au final, on a du mal à gérer un peu ce côté épargne et consort. On aime les dernières tendances, on aime les derniers vêtements. Donc, c'est pour ça que ces femmes-là, vraiment, je profite de l'antenne, un grand chapeau, parce que ces mamans-là, avec des faibles commencements, des faibles financements, elles arrivent à maintenir un foyer, à envoyer les enfants à l'école. Donc, ça veut dire que ces tableaux-là que je peux leur présenter, elles vont dire coach day, on connaît, on fait ça au quotidien, tout simplement, mais c'est dans la tête.
Alors, quelques conseils coach pour réussir son business plan, quelques conseils justement pour nos auditeurs.
Faut savoir, j'ai toujours dit, quand vous voulez construire une maison, il faut aller voir un maçon. Mmh. Vous voulez avoir un bon business plan bien établi, allez voir les professionnels dédiés. Parce que vous pouvez pas imaginer que quand vous cliquez sur Internet, on vous dit business plan facile à faire, on clique à gauche, on clique à droite. Non, si c'était si simple que ça, ça aurait servi à rien que je fasse autant d'années d'études. Donc à un moment donné, il y a des subtilités que vous ne maîtrisez pas quand il s'agit d'établir un bon business plan. Parce que vous y trompez pas. En face, vous avez des analystes, que ce soit les banquiers, quand ils prennent votre document, ils savent exactement à quel point, à quel endroit aller vérifier si ça a été fait par un professionnel ou non. Donc, je vous invite à aller voir les professionnels du métier, tout en particulier les experts comptables qui sont habilités à vous faire un travail de qualité.
Alors, nous allons prendre cet auditeur. Allô, allô, bonjour.
Allô ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Donc, en fait, moi, c'est Gaëlle.
Oui, Gaëlle.
En fait, moi, je suis complètement novice dans tout ce qui est entrepreneuriat.
Oui.
Et du coup, je m'informe avec cette émission. Donc, en fait, je voulais savoir... parce qu'en fait, j'ai des amis qui m'ont dit que les banques françaises n'aiment pas financer des projets d'investissement à l'étranger, notamment en Afrique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Mais attends, voilà. Et ma deuxième question, c'est de savoir, au fait, quand vous dites que, par exemple, il y a un impôt qui est prélevé, enfin voilà, qui est payé, c'est un impôt qui est payé sur le chiffre d'affaires ou sur les intérêts? Pour savoir, en fait, si c'est une petite entreprise qui fait de très peu d'intérêts, enfin de bénéfices, est-ce qu'elle paye l'impôt sur ses bénéfices ou elle paye l'impôt sur... Enfin, comment ça se passe?
En fait, je vais répondre sur la dernière question déjà. Il faut savoir que on paye de l'impôt au moment où on gagne de l'argent. La seule impôt qu'on paye qui ne dépend pas si vous gagnez de l'argent ou pas, c'est la contribution foncière des entreprises. C'est fait par rapport aux communes pour qu'ils puissent financer les crèches et consorts. Donc quand vous créez une entreprise, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, dès lors qu'on crée une société, on est acculé par des taxes et des impôts.
Et ça crée beaucoup de psychoses, parfois de craintes.
Voilà, ça crée des craintes. Et puis les gens n'osent pas se lancer au fait dans l'activité. Il faut savoir que l'impôt est calculé sur un résultat bénéficiaire. Quand vous gagnez de l'argent, l'État il dit « Écoutez, madame, monsieur, donnez-nous notre petite part pour nous. » Encore une fois, je dis l'État, c'est nous, parce que les impôts qui sont récoltés servent à financer tout ce qu'on peut bénéficier ici en France comme dans les autres pays d'Afrique. Voilà. Et concernant la réticence des banquiers ici en France pour financer les projets en Afrique, c'est simplement quoi? Ce sont des garanties. Aujourd'hui, on vous finance 100 000, 200 000 pour un projet en Afrique. Il faut quand même qu'ils aient des garanties d'un retour sur investissement, parce que les banquiers ne donnent pas l'argent à fonds perdu. Il faut qu'ils aient des garanties. Ce qui fait que souvent, je vous dis aux gens qui souhaitent investir en Afrique, il faut aussi vous préparer déjà ici en France à avoir des garanties, parce que le banquier se dit... Si vous êtes propriétaire, que vous avez déjà fini votre crédit, si vous prête 150 000 euros, il se dit...
Vous disparaissez.
Alors, oui. Voilà, donc c'est... Il y a une logique.
On peut disparaître de la circulation.
Tout à fait. Or, si vous êtes bien installé en France, si vous avez une maison, vous avez des choses, le banquier se dit, bon
si elle ne pourra pas fuir, on va garder sa maison.
Exactement. Vous voyez, c'est un peu tout ça, il faut comprendre là, aussi les banquiers.
Juste une dernière question.
Allez-y.
Donc, juste pour savoir, est-ce que si jamais je prends un exemple, moi j'ai de l'argent, j'aimerais investir, mais je n'ai aucune idée parce que je suis un peu nulle dans tout ça, est-ce que je peux aller me présenter, est-ce qu'il y a des endroits où on peut se présenter en disant j'aimerais financer un projet mais c'est pas lequel, et est-ce qu'on peut avoir des marchés comme ça et étudier et voir où c'est vraiment à chaque personne de concevoir son projet d'entrepreneuriat?
Ok, donc vous voulez être celle qui va apporter les finances auprès d'une personne qui a un projet, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Bon, on pourrait parler du projet Africa Radio qui veut s'étendre à travers toute l'Afrique.
Oui, venez prendre des parts de marché.
Venez prendre des parts de marché. Oui. Je vous invite.
Oui, non, mais c'est pas une mauvaise idée, mais vous savez, c'est souvent difficile d'apporter un capital auprès d'une personne que vous ne connaissez pas. C'est vraiment compliqué. Je vous conseillerais déjà en premier lieu de voir avec votre entourage les personnes que vous connaissez bien, que vous appréciez, qui ont une bonne idée, bien sûr, parce qu'il faut quand même une bonne idée et des compétences dans le domaine pour pouvoir s'associer avec ces personnes-là. J'ai vu qu'il y avait une émission même à la télé qui passe actuellement. Il y a des gens qui sont porteurs de projets et il y a des financeurs en face. Donc, c'est possible à faire, mais il faut absolument s'assurer auprès des personnes pour pas que ça soit à fond perdu.
Voilà, en tout cas, il y a des entrepreneurs qui vous ont écouté, hein, donc si vous désirez les financer...
Ils sont preneurs,
je pense.
Vu que les banquiers sont réticents.
Merci beaucoup pour votre appel, 0155 0758 00. Encore quelques minutes à passer avec le coach D. Qu'est-ce qu'on peut retenir, coach, par rapport au business plan? Parce que ça reste un élément fondamental pour la suite d'une entreprise.
Tout à fait. Pour moi, c'est un document qui vous sert en fait à vous guider, à piloter votre activité sur les mois et sur les 3 ans à venir. Il faut absolument pas négliger cela. Ça vous permet en fait de mettre sur papier tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous avez en tête et tout ce que vous pourrez projeter dans l'avenir. Uh-huh. Et puis c'est un élément qui vous permet aussi de solliciter les financements auprès des particuliers comme la DAM, uh-huh. parce qu'il faut un document. Malheureusement, ici en France et dans les différents pays, on parle papier, on parle document. Il faut justifier de ce que vous avancez. On ne va pas vous croire sur parole. Un business plan, c'est votre carte de visite, c'est votre carte de présentation, c'est un document de présentation de votre activité, parce qu'il faut savoir que c'est composé de plusieurs compartiments. En dehors du chiffrage, il y a aussi la présentation du projet, de votre expérience, pourquoi vous vous êtes lancé dans ça. Il y a une partie rédactionnelle qui explique pourquoi vous vous êtes lancé dans ça, qui met en exergue votre CV. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de primordial pour un chef d'entreprise, un futur chef d'entreprise, d'établir cela pour pouvoir intéresser les différents partenaires. Parce que des fois, même quand vous allez voir un fournisseur, il peut éventuellement vous demander votre business plan. Vous allez voir un futur bailleur, il peut vous demander votre business plan, parce que on navigue à vue, c'est une nouvelle société, ils savent réellement pas là où vous allez vous lancer. Automatiquement, un business plan va éclaircir un peu plus votre projet, et voilà.
Est-ce que notre invité a eu recours justement à un business plan pour se lancer dans cette entreprise ?
Oui, j'ai eu recours à un business plan.
Oui, rapprochez-vous du micro, oui.
J'ai eu recours à un business plan.
Oui, pour pouvoir vous lancer. Oui. Alors, à l'exception des vêtements, y a-t-il d'autres produits ou d'autres articles ? Pouvez-vous nous dire, nous présenter avec beaucoup plus de largesse que vous faites ?
D'accord. Nous vendons des chaussures, mmh. des accessoires et produits cosmétiques, notamment des eyelash, gloss, des rouges à lèvres, Hervia by Cosmétiques.
Est-ce que c'est un secteur porteur aujourd'hui, Coach D?
Oui, tout ce qui touche la beauté, les femmes aujourd'hui, aujourd'hui comme hier, elles aiment se faire belles. Et pour moi, surtout qu'il ne faut pas oublier que la communauté, la diaspora, comme en Afrique, on a gagné en pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment un secteur qui est porteur, parce que aujourd'hui le budget moyen par mois peut être de 200-250 € par femme, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Je pense que par rapport à la communauté, c'est une bonne chose, parce qu'il y a vraiment, c'est un marché porteur. Voilà, c'est vraiment un marché porteur. En Afrique, pareil, parce qu'il y a nouvellement la classe moyenne qui émerge dans les différents pays. Voilà, donc ça veut dire que quand il y a une classe moyenne, il y a une consommation qui est relancée, qui est mise en place. Et quand qui dit consommation, les premiers consommateurs ou les premières consommatrices, ce sont nos chères dames, parce que les femmes sont à la base de la consommation pour à la fois se faire plaisir et nous faire plaisir. C'est pas que je suis contre la consommation des femmes, j'explique simplement, ne m'en veuillez pas. Voilà.
Merci beaucoup, Coach D. Merci également H&M by Hervia Shop Luxury. Donc on peut vous retrouver facilement sur internet. Un numéro de téléphone, votre site internet.
Sur mon site internet www.hmbyherviashopluxury.com et sur mes réseaux éventuellement.
Alors H&M pour Hervia Manga, qui est du Cameroun. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. La semaine prochaine, mardi prochain, on parlera de quoi, Coach D?
On parlera de l'épargne et du capital. L'épargne au capital.
L'épargne, capital qui ne doit pas être une épicerie.
Exactement.
Merci beaucoup, créer. Coach, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci,
on va
vous citer
avec cette chanson d'Aya Nakamura, La Dot.
Le plus de la grande matinale sur Africa Radio.
J'avais pas lové, j'avais tous les mecs sur le bas côté. Fais belle et tu vas câbler. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. Dans les recoins de ma tête, y'a comme un truc qui m'a fait. Suis le faux pasteur et c'est ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Je ok.
manger. À la Bonnie and Clyde, t'es validé. T'as tapé dans le mille de mon cœur. Je finis dans la vida avec toi. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. On fait le combo, j'ai trouvé la recette. Mariage enfant, je crois que c'est le concept. T'as dit des ex s'empêtent. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches.